signe à 5 minutes, puis après ça, à 2 minutes, et puis après ça, je vais retirer la parole.
Tu sais que c'est tout à fait superflu que tu me dises tout ça, j'écouterai probablement pas. Mais c'est pas grave. Je suis tellement concentré. Alors, bonjour, bienvenue à ce séminaire. Il y a trois objectifs. Le premier, faire suite à mes élucubrations en ce qui concerne l'individuation et la technique. À l'automne, j'avais parlé de Carl Theric fondé sur Stigler, Leroy Bourhand et Heidegger, redoublement mutuel entre l'homme et la technique. Alors, je voulais approfondir. Alors, la phase 2, si vous voulez, c'est d'approfondir la notion de transduction chez Simondon. Que moi j'appelle une dialectique, même si elle ne se sépare ainsi. Deuxièmement, c'est que ce parcours-là va nous amener à questionner certains prédicats en ce qui concerne les théories de la communication. Et on va les utiliser. Et troisièmement, je voulais approfondir parce que suite à mes trop brèves rencontres avec mon collègue Jean Descarrés, faire des distinctions entre la systémique ou la cybernétique numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Alors, il sera très, très clair ce soir, on va parler des débuts de la cybernétique. Donc, on parle de 1945, 62 à peu près, 68. Enfin, je pense que la deuxième vague, on peut dire qu'avec Bertrand Danfy, c'est fin des années 60. On commence à rentrer dedans. Alors, voilà. Sans plus tarder, l'état actuel de la nation, bon, alors, on connaît l'expression, l'explosion de la communication, on est dedans tout partout. C'est une discipline qui est aujourd'hui prédominante, qui a des prétentions même à l'universel. Tout est communication, y compris la société, qui est rendue maintenant une société d'information. Donc, premier constat. Le second, la prégnance technique, qui est au cœur de mes soucis. Quand je dis prégnance technique, je ne parle pas juste en termes d'objets techniques, mais bien en termes de technicité, c'est-à-dire une instrumentalisation, j'allais dire à outrance, mais on va dire soutenue, qui se traduit par un pragmatisme. Hein, on va être en contact avec les vraies choses, on est dans les opérations, et la vérité ne réside plus maintenant dans la représentation, l'idéologie ou le politique, mais dans une prétention avoir dans le fonctionnement un contact direct avec le réel, empirique, donc en dehors des sphères de l'idéologie et du politique. Alors voilà ce qui assombrit maintenant la discussion, je sais. La fin du politique, c'est effectivement très sombre. Et ça se traduit par une lumière qui jaillit tout d'un coup, c'est celle de la transcendance que nous devons retrouver, parce que ce refus de la transcendance est là où justement il y a le refus du politique et du symbolique. Donc, à bien des égards, ce surdéterminisme technique et cette explosion des communications et ce refus du symbolique, du politique et de l'idéologique se retrouvent en ce moment très fort dans les communications. Et j'en prends à témoin le Web 2.0, par exemple, où on assiste à l'éclosion d'outils qui ont la prétention avouée de pouvoir produire du social. Hein? Donc, et si vous remarquez, dans ce discours-là, il est nullement question de rapports politiques, idéologiques ou même sociaux, autrement que eh bien, c'est une production qui s'ensuit. On y reviendra. Ce mode de reproduction-là qu'on appelle postmodernisme, ou si on est frétalien, opérationnel, décisionnel, ou si vous avez eu le bonheur de travailler avec Jean-Guy et moi, on appelle ça le système monde ou le systémisme totalisant, c'est-à-dire une dynamique empirique, totalisante, avec pour but explicite d'englober le monde dans un champ posé comme réel, l'empiricité, et qui puiserait sa supposée neutralité dans la validation de son propre fonctionnement. Je suis ce que je fonctionne ce que je suis, et voici. Alors, on a l'impression, donc, qu'on est dans l'ordre du registre du technique et qu'on est, en ce sens, purement instrumental. La dimension opératoire, certes, est un objet, sujet à objectivation, oui, sûr, mais il y a aussi une genèse effective à ces opérations-là. Et c'est là que le fun commence, parce que là, on va redoubler, si vous voulez, la boucle. Je l'ai raconté à quelques-uns de mes collègues, j'étais à un colloque à Londres il y a quelques semaines, allez-y pour un colloque, restez-y pour les volcans, oui, je suis une de ces victimes-là, et il y avait une présentation, quand je dis morne, je suis généreux, de deux informaticiens ou d'étudiants en informatique, et qui sont mis à dire que, ben, avec le Web 2.0 et même le 3.0, parce que bon, il y a une évolution super, qu'on pourrait maintenant produire des ontologies. Alors, imaginez, je suis pas de plus poilu, mais n'empêche que le peu que j'ai se sont mobilisés pour se dresser. Et à la fin, je suis allé leur voir et leur dis, ben écoutez, vous pouvez pas employer ontologie en ce sens-là. Je veux dire, l'ontologie, c'est une logique de maintien de soi. C'est le dernier rempart qu'on a pour se cogner le mur contre le naturel. Et ils m'ont répondu, ah, ça, c'est ça. Ah, ça, c'est en philo. Nous, c'est autre chose. Alors, je trouve intéressant qu'on est rendu maintenant dans « on peut construire ses propres ontologies ». Et lorsqu'on parlait, Jean-Guy et moi, que dans le système monde, on assistait en fait à une idéologie qui se présentait comme non idéologique, c'est-à-dire technique. Et dans ce petit bout-là, je l'ai bien vu à l'œuvre. Parce que si on construit des ontologies, on peut appeler ça grammaire, normes, règles, avec toute la pluralité que l'emploi du pluriel, justement, porte. Mais non! On veut créer, donc lors du discours, une ontologie. C'est quelque chose qui se présentera justement comme pas un discours, mais la règle de base, la règle en soi. Et là, on voit bien cette, j'allais dire mécanique, mais c'est comme nos amis, j'allais dire du Parti libéral, mais de la mafia, qui font le blanchiment. Je veux dire, je prends le discours, je le blanchis sous une ontologie que je produis, il est inscrit dans la règle technique, et puis voilà, on vient de faire une scissure. Et à l'autre bout, ce qu'on reçoit, c'est non pas une pratique, une proposition, c'est une technique qui arrive avec ses règles. Alors, comment faire pour avoir une position critique par rapport à ça? Et c'est le dilemme de tous ceux qui font l'intervention. Le problème, c'est qu'il faut prendre position idéologiquement, mais la notion d'idéologie est pas valide. Je veux dire, si vous cognez à cette porte-là, désolé, il n'y a pas d'objet au numéro que vous avez composé. Alors, l'idée, c'est pas nécessairement de prendre position idéologiquement, mais de prendre position pour l'idéologie, lui redonner droit de cité. Et pour moi, ça, c'est le premier pas vers une position critique en communication, de ramener véritablement le producteur. Problème, et je le vis parfois, souvent, lorsqu'on aborde en communication des objets tels, on va me dire « Ah, ben ça, c'est de la socio. Ça, ça ne touche pas. Mais pourtant, je travaille sur Facebook. Me voici dans un média, donc communication, qui a des prétentions d'englober vers le social. Alors, naturellement, ben je vais ouvrir cette porte-là. Mais la division institutionnelle ne le prend pas intuitivement, naturellement. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça charrie l'idéologie et le politique. Ça va heurter tous ces prédicats-là. Je lisais dans un texte, et l'expression, je l'ai trouvée vraiment intéressante. C'était une étudiante de maîtrise qui citait un chercheur qui disait « L'usage devient social ». J'ai trouvé ça intéressant. Parce que finalement, c'est de poser qu'il y aurait quelque chose de « asocial », un usage, et que par la suite, il deviendrait social. Et là, on retombe tout dans le discours du Web 2.0. Même chose lorsqu'on dit c'est du web social. Le web a toujours été social. Appelez-le collaboratif, si vous voulez. Appelez-le service aussi pour le rentrer dans... Alors, mais web social, ça vient pratiquement ontologiser le web. Et là, on le voit bien, c'est comme nos amis roumains. Il va cesser d'être une production et il va être porteur de ses propres règles qu'on va appeler ontologie au pluriel, parce que tout le monde va s'entendre que maintenant, on ne veut plus de domination, de dictature, d'une ontologie, et puis il n'y aura plus d'emprise. Ça va devenir le système ou la société, ça va devenir le marché au lieu du capitalisme, ça va devenir l'économie au lieu de quelconque proposition. Alors, l'idée pour reprendre les droits à l'idéologie, droits de cité, je pense qu'il faut retourner, questionner les catégories avec lesquelles nous pensons l'ontologie elle-même. Parce que celle-ci, et j'ai bien aimé il y a un mois maintenant la présentation de Maxime, qui a repris la notion de travail, il dit « Ben regarde, si on part de là, elle est elle-même porteuse d'une conception capitaliste, donc il faut la réinterroger. » Et je pense qu'on pourra m'objecter que toute définition ontologique soit ancrée toujours socio-historiquement. Je dis oui, mais sortons le vieux schnock d'Heidegger et disons que la question de l'ontologie, elle, est probablement ce qu'on a de plus ontologique comme outil. Donc, de la questionner sans cesse. Et c'est ce que nous allons faire par l'entremise de la présentation de l'œuvre de Gilbert Simondon. Philosophe français, 1924-1989. Lecture difficile, provocante. Il est peut-être le plus connu des inconnus. Il y a des vagues, Simondon. Il y avait Deleuze à l'époque qui l'avait sorti des Boulamites. Et maintenant, depuis, je dirais, une dizaine d'années, Stigler, Marielle Combs, Barthélémy, qui est un adjoint, enfin, un ami de Stigler, on commence à ressortir Simondon. Parce que justement, il avait pensé justement cette présence de la technique, mais pas seulement comme objet. Parce qu'il faut bien se le dire, quand c'est rendu, tout est rendu informatisé, entre guillemets, où la technique est partout, elle n'est pas là que physiquement, elle est là aussi au cœur même des processus sociaux. Alors, Simondon, donc, Marcuse le mentionne dans L'homme unidimensionnel, pour ceux qui s'intéressent. Ses œuvres majeures sont du mode d'existence des objets techniques. Sa grosse œuvre, l'information à la lumière des notions, l'individuation à la notion de forme et d'information, pardon. Et là, je me rends compte que je suis en train de faire des diapos. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est donc ça. On part de l'œuvre Simondon, on fait un petit arrêt pipi à l'étude des sciences humaines, on aborde la technologie et on rentre dans la cybernétique. Et comment les deux ont eu des ouvertures réciproques. Et après, on débouche sur critique de la forme, théorie de l'information et critique du cybernétique comme modèle d'individuation sociale. Une chose que j'aimerais apporter attention au cours de cette présentation, c'est la distinction que je ferai entre reproduction et reproduction. Une machine, Xerox, c'est de la reproduction. Une individuation, c'est de la production sur de la production sur de la production. C'est donc de la reproduction. Production. Ça n'implique pas au même. Simondon dirait le deuxième cas relève de l'automatisme et de la machine, et le premier des véritables systèmes techniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent idéalement se reproduire, ce que peut-être on appellerait autopoïesis dans certains domaines biologiques, mais je te l'ai dit, c'est ce domaine où je marche sur tous les autres parcs du monde. Alors, étonnamment, le point de départ de Simondon, c'est l'unité des sciences humaines. La grosse question à 100 000 $. Et le premier obstacle qu'il va y voir, c'est que comment sortir des abstractions dans le domaine des sciences humaines? Comment sortir d'un discours qui se relativise lui-même? Comment arriver avec quelque chose qui serait objectivement solide et qui pourrait porter la connaissance de l'homme sur l'homme? Le problème pour Simondon, c'est les divisions, les dichotomies entre l'intérieur, le psychologique, l'extérieur, le social, et là vous reconnaîtrez peut-être ceux qui ont trippé en philo Merleau-Ponty, en intérieur et extérieur. D'ailleurs, Simondon est un élève de Merleau-Ponty, donc il reprend un peu l'héritage Merleau-Ponty et aussi de Bergson. L'idée, c'est d'éviter la question ontologique de l'origine, parce que c'est là que ça blesse. Il n'est pas question pour Simondon de partir sur des structures stables comme fondation, mais bien sur les opérations d'individuation, c'est-à-dire de création ou d'apparition de ces structures-là. Donc, l'idée, c'est d'ancrer le thème anthropologique dans une ontologie à sa mesure, c'est-à-dire qui se crée elle-même. Voilà pourquoi il appelle ça une nouvelle axiomatique. Alors, c'est donc pas une question purement épistémologique ou méthodologique. Ça porte sur les conditions de possibilité de la science humaine. Alors, Simondon parle d'une définition de l'homme. C'est pas un ensemble de structures qui définissent un domaine empiriquement séparé. C'est pas une positivité ou un contenu spécial à l'exclusion des autres êtres vivants. Par exemple, l'homme, c'est du symbolique, les animaux, non. Alors, les travaux sur les primates et les grands singes nous montrent qu'effectivement, c'est une séparation qui ne tient pas. Pour Simondon, la réalité objective, entre guillemets, de la situation de l'humain, c'est la réalité d'un processus, c'est-à-dire son processus d'objectivation. L'homme est le seul capable d'objectiver sa relation au monde extérieur. Et là, on peut ouvrir une porte sur la praxis marxienne, telle que définie notamment par Henri Lefebvre, qu'on va retrouver en fin de parcours. Donc, il s'agit d'ancrer anthropologiquement dans l'ontologie des processus et pas de la substantialisation. Pour d'arriver à dire, voici l'homme et voici comment il chante. Et comment est-ce qu'il apparaît? En ce sens, c'est aussi très heideggerien. Il y a cette... C'est mieux? Alors, faire de l'individuation le fondement d'un devenir amplifiant et place ainsi l'individuation entre un état primitif de l'être non résolu et l'entrée dans la voie résolutrice de son devenir. L'individuation n'est pas le résultat du devenir, ni quelque chose qui se produit dans le devenir, mais le devenir lui-même, en tant que le devenir est le devenir de l'être. L'individu ne permet pas de remonter à l'individuation, parce que l'individu n'est qu'un des aspects de l'individuation. Et là, c'est important. Effectivement, dans l'idée d'une reproduction, l'individu est effectivement qu'une phase qui permet à la relation de se reproduire dans le temps, d'assurer une présence, une pérennité. Alors, le devenir n'est plus une continuité d'altération d'Isimondon, mais un enchaînement d'états métastatiques.